إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، ما زلنا مع قراءة شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وقفنا أو توقفنا عند إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أخانا ريان، اقرأ بارك الله فيك.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وهذا الباب
في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق.
أحسنت. طيب، إذا نختم إن شاء الله تعالى شرح هذا الباب بقول الشارح حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآيات الكريمة؟ يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا ذكرناه. ثم يقول: هذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلافا للرافض والجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع سلف الأمة وأئمتها، ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها. دونك اون تيرمين بإذن الله ce chapitre là concernant l'affirmation du fait que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Et donc le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il a dit que tous les versets que l'on a mentionnés prouvent bel et bien donc que les croyants verront Allah Tabaraka wa Ta'ala le jour de la résurrection. Et ceci est l'avis des Sahaba, des compagnons, est l'avis des Tabi'in et les imams des musulmans. Contrairement à certains groupes d'innovateurs tels que Al-Rafida ou Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, qui eux renient justement cette vision-là qu'auront les croyants de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans l'au-delà. Donc ils renient, en vérité ils renient le Coran lui-même, et ils s'opposent à la Sunna, et ils démentent le consensus qui existe au sein des salafs, des prédécesseurs de la Ummah, ainsi que de leurs imams. Et pour cela, ils s'appuient sur des ambiguïtés qui sont totalement faibles et dénuées de sens, sur des justifications totalement erronées. Et on va les citer, bi'ihmillah, et le cheikh va les réfuter une à une. طيب اولا قولهم ان اثبات الرؤيه يلزم منه اثبات ان الله في جهه ولو كان في جهه لكان جسما والله منزه عن ذلك والجواب عن هذه الشبهه ان نقول لفظ الجهه فيه اجمال فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية وإن أريد بالجهة لله تبارك وتعالى أنه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله إن أريد بالجهة أن الله جل وعلا في العلو أي فوق مخلوقاته فهذا صحيح وهذا الثابت لله تبارك وتعالى ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته جل وعلا. Donc la première ambiguïté que ces groupes d'innovateurs amènent pour justifier leur reniement de la vision des croyants vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala ce jour-là, ils disent que lorsque tu affirmes que les croyants verront Allah tabarak wa ta'ala, eh bien cela revient à affirmer qu'Allah est dans une direction. Qu'Allah il est dans une direction. D'accord? Et que s'il est dans une direction, cela t'amène à donner à Allah un corps. En arabe, un jism. Un jism. Alors que le terme jism, corps, n'a été affirmé ni par le Coran ni par la Sunna. Le terme jism n'a été affirmé ni par le Coran ni par la Sunna. Donc tu n'as pas le droit d'affirmer à Allah un corps. Il n'y a ni un jism. Taïeb. Donc comment répondre à cette ambiguïté-là? Il dit le Cheikh, Fadhaullah Ta'ala. Et bien que le terme jiha, le terme direction, tout d'abord, la direction, d'accord, el jiha, la direction, c'est un terme d'abord qui est global, qui est général avant tout, et qui a besoin en vérité de détails, d'accord. Qu'est-ce que la personne veut dire par el jiha, la direction? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit le cheikh, si la personne veut dire par el jiha, la direction, qu'Allah il est dans une direction, dans le sens que Allah Jalla wa'ala, il fait partie intégrante de ses créatures, qu'il est à l'intérieur de ses créatures, qu'il est mélangé à ses créatures. Dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que c'est faux. C'est totalement faux. Celui qui dit qu'Allah il est dans une direction, dans le sens qu'Allah Jalla wa'ala est mélangé à ses créatures, ou à l'intérieur d'elles, bien cela est totalement faux. Et les preuves réfutent cette croyance-là totalement. Taïeb? Naam. Et ils disent donc que cela n'affirme pas la vision des croyants donc d'Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Mais si la personne en disant Al-Jiha, la direction. Elle veut dire par là qu'Allah tabarak wa ta'ala, il se trouve dans la direction, c'est-à-dire qu'Allah il est au-dessus de ses créatures. Dans le sens où Allah il est au-dessus de ses créatures. Allah il est en haut. Na'am. Dans ce cas-là, c'est vrai. Dans ce cas-là, tabarak wa ta'ala, il n'y a pas de doute qu'il est au-dessus de ses créatures. Qu'il est en haut. Il se trouve au-dessus de son trône. Le trône qui est la créature la plus haute parmi les créatures. Dans ce cas-là, ce sera vrai. Donc, on affirme al-jihad dans ce cas-là, et le fait de le renier, ce sera totalement injuste. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de ces créatures, cela ne s'oppose pas et ne contredit pas que les croyants verront Allah le jour de la résurrection. Il n'y a pas de contradiction et de paradoxe entre le fait qu'Allah jalla wa ala est au-dessus de ces créatures et que les croyants pourront le voir yawm al-qiyama. Thaniyan, استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية لكن في الدنيا لن تراني أين؟ في الدنيا. ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى. وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. Deuxièmement, ils se servent comme preuve pour dire que les croyants ne verront jamais Allah tabarak wa ta'ala et bien de la parole d'Allah dans la surah Al-A'raf verset 143. Quand Allah tabarak wa ta'ala il dit à Moussa alayhi salam, tu ne me verras pas, tu ne me verras pas, d'accord. Donc comment répondre à ça? Naam, c'est vrai qu'Allah il a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Eh bien on répond à cela tout simplement que ce verset là il concerne alayhi salam, il concerne l'impossibilité de voir Allah tabarak wa ta'ala, même pour un prophète, fi dunya, sur terre. Car Allah jalla wa ala n'a pas donné la capacité à l'être humain sur terre de pouvoir supporter la vision d'Allah. Même un messager ne peut pas supporter la vision d'Allah tabarak wa ta'ala fi dunya. Tayyib, lan tarani fi dunya. Non, mais cela n'empêche pas la vision des croyants d'Allah tabarak wa ta'ala le jour de la résurrection ou dans l'au-delà. Et les preuves, bien sûr, le prouvent clairement. D'accord? Donc, l'état ou la capacité des humains, des créatures, n'est pas la même ici-bas et dans l'au-delà. On n'aura pas les mêmes capacités, ni les mêmes tailles, hein, ni les mêmes envergures. Donc Allah tabarak wa ta'ala permettra à la créature de le voir yawm al-qiyama, contrairement à la dunya. Thalithan, istadallu bi qawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absar. Surat al-an'am. Wal jawabu an hadha al-istidlal anna al-aya innama fiha nafyu al-idrak. نفي الإدراك والإدراك هنا بمعنى الإحاطة. طيب وليس فيها نفي الرؤية والإدراك بمعناه الإحاطة. فالله جل وعلا يراه المؤمنون ولا يحيطون به بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية. طيب يعني نأخذ من مفهوم هذه الآية إثبات الرؤية، إثبات الرؤية. فالآية من أدلة إثبات الرؤية والله تعالى أعلم. Troisièmement, il se sert de la parole d'Allah تبارك وتعالى de la sourate الأنعام verset 103 dans le sens rapproché où Allah تبارك وتعالى il dit les regards ne le cerne pas. Les regards, les regards humains, ne cernent pas Allah tabarak wa ta'ala. N'atteignent pas Allah tabarak wa ta'ala, yani de manière totale. Donc on répond à ça. On répond ici que ce verset-là infirme le fait que les créatures puissent cerner Allah avec leur regard. Il y a une différence entre voir quelque chose et cerner quelque chose. C'est pas pareil. Prenons par exemple la lune. Nous pouvons voir la lune, mais est-ce qu'on peut cerner la lune de manière totale avec nos yeux? Non. On peut voir la terre, mais est-ce qu'on peut cerner la terre de manière globale et générale avec nos yeux? Non, on la voit, on voit une partie de la terre seulement. Mais l'être humain ne peut pas voir la terre dans sa globalité, ou la lune, ou le soleil. Et bien de la même façon, les croyants pourront voir Allah tabarak wa ta'ala le jour de la résurrection, mais ils ne pourront pas le cerner dans sa globalité. Cela est impossible. D'accord? Donc ce verset-là, il renie le fait, al-idrak. Al-idrak, ce n'est pas ru'ya, c'est deux choses différentes. Tu as ru'ya, la vision, ou al-idrak, al-ihata, le cernement. Le fait de cerner une chose, d'entourer une chose par sa vision. D'ailleurs, donc Allah tabarak wa ta'ala pourra être vu par les croyants, mais ne pourra pas être cerné par les croyants de leur regard. Il dit le shaykh, plus que ça, en vérité ce verset-là est la preuve qu'on verra Allah tabarak wa ta'ala. Parce qu'Allah jalla wa ala, en reniant justement al-idrak, il a affirmé en même temps le fait qu'on le verra. C'est ça la faïda, l'enseignement que l'on tire du fait qu'on ne pourra pas cerner Allah. Eh bien on tire de cet enseignement-là que l'on pourra voir Allah. D'ailleurs, car sinon Allah tabarak wa ta'ala aurait renié directement la vision. Pourquoi renier l'ihata alors qu'il aurait pu renier la vision? Donc s'il a renié l'ihata, qui est le cernement, eh bien cela veut dire que la vision, elle est affirmée. La vision des croyants à l'égard de leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Na'am. Donc en vérité, ce verset-là, c'est une des preuves que les croyants verront Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qui arrive très fréquemment, qui est lorsque un innovateur t'amène un verset pour justifier sa bid'a, eh bien très souvent, tu peux utiliser le même verset pour contrecarrer sa bid'ah et son argument. Et cela arrive très très souvent, comme dans ce verset. Wa qawlu al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadha al-bab fi kitab Allah kathir ay bab ithbat asma'illah wa sifatihi fi al-Qur'an kathir wa innama dhakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala ba'dahu faqad warada fi آيات كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدى تبين له طريق الحق أي اتضح له سبيل الصواب وتدبر القرآن وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال جل وعلا كذلكم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقال تعالى أفلم يدبروا القول. طيب دونك l'auteur rahimahullah ta'ala termine son premier grand chapitre. Donc là on arrive à la fin du premier grand chapitre, d'accord, qui est les preuves concernant l'affirmation des noms d'Allah et de ses attributs dans le Coran. Donc là on a terminé le premier chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné pas tous les versets mais quelques versets, certains versets prouvant qu'Allah Jalla wa Ala a des noms et des attributs. D'accord ? Mais il n'a pas cité tous les versets. Hein. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais c'est certains versets. Taïeb. Et les preuves sont nombreuses. Bihamdillah tabarak wa ta'ala. Concernant l'affirmation des noms d'Allah et de ses attributs. Taïeb. Puis il dit. Celui qui médite sur le Coran, c'est-à-dire celui qui réfléchit, celui qui médite, eh bien cela va l'amener à le chemin de la vérité, à la guider. C'est-à-dire que le chemin, le bon chemin lui sera clarifié. Et pour cela, il faudra qu'il médite, comme nous l'avons fait pendant tous ces durus. Et la méditation du Coran, c'est une chose qui est demandée. Lorsque tu récites le Coran, tu te dois de le méditer et d'avoir une réflexion sur ce que tu es en train de lire de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah il a dit, notamment dans la sourate Sad, dans le sens rapproché, un livre que nous avons descendu sur toi afin qu'il médite, afin qu'il réfléchisse sur ces versets et afin que se rappelle ceux qui sont doués de raison et d'intelligence. Dans la sourate Muhammad, il a dit aussi, ne méditent-ils pas sur le Coran ou ont-ils sur les cœurs un cadenas? Il dit également, n'ont-ils pas médité sur la parole, c'est-à-dire le Coran? Taïeb. Alhamdulillah, qad تهينا مع شرح الباب الأول وهو الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن والآن ندخل إن شاء الله تعالى في باب الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته في السنة أو من السنة. طيب الحمد لله أخنا نعيم قرأ إن شاء الله.
على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
وصل.
ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم بارك الله فيك. طيب إذن قوله رحمه الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عطف على قوله فيما سبق وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره أي دخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به سنة الصحيحة لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ورد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى كتابه ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. السنة لغة هي الطريقة واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وزاد بعض العلماء أو صفته. نعم. Donc, nous passons au chapitre suivant, au deuxième grand chapitre, donc, intitulé Les preuves de l'affirmation des noms d'Allah et de ses attributs dans la Sunna, c'est-à-dire dans les hadiths authentiques. Donc, le premier chapitre, lui, concernait seulement les versets coraniques. Donc là, on va rentrer dans le mention des hadiths prouvant l'affirmation des noms d'Allah et des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Il dit ensuite dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette phrase-là, ensuite,
dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle fait suite à sa parole, la parole de l'auteur qui a dit, qui avait dit que parmi les preuves concernant l'affirmation des noms d'Allah et de ses attributs, eh bien ceux qu'Allah tabarak wa ta'ala a mentionné, yani dans, notamment dans la sourate Al-Ikhlas. Vous vous rappelez, c'était le tout début ça. On avait commencé par la mention de la sourate Al-Ikhlas. Et après il y avait le verset de Kursi, et cela nous a mené jusqu'au verset donc on a mentionné précédemment dans le chapitre précédent. Voyez, donc cette phrase là elle fait suite à la première phrase qu'il avait mentionnée, et donc là on va rentrer dans la sunna de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, donc fait partie des preuves également les descriptions qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur. Car il n'y a pas que dans le Coran que l'on trouve les noms d'Allah ou que l'on trouve des attributs d'Allah, mais également dans la sunna. Le prophète nous a rapporté certains noms d'Allah et également certains attributs d'Allah tabarak wa ta'ala que l'on ne trouve pas dans le Coran. D'accord ? Car la sunna, comme vous savez, c'est la deuxième source de la législation. D'accord ? C'est la deuxième source, après le Coran, de la législation. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit même qu'en vérité, la sunna, lorsqu'elle est authentique, elle est au même niveau que le Coran. Au niveau de la législation, elle est au même niveau que le Coran. Il se peut même que la sunna vienne abroger certains versets. Il est obligatoire par conséquent de revenir après le livre d'Allah, de revenir à la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens rapproché, et si vous vous disputez en quoi que ce soit, eh bien retournez à Allah et à son messager. D'ailleurs, ramenez-le à Allah et à son messager. Donc revenir à Allah, eh bien tout simplement c'est revenir à son livre. Et revenir à son messager sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, eh bien il n'y a pas de problème. C'est revenir, c'est aller le voir pour lui poser la question et qu'il juge entre les musulmans. Mais après sa mort, comment on fait après sa mort? Eh bien, tout simplement, on retourne à sa sunna. On retourne à la sunna qu'il a laissée après sa mort derrière lui. Donc le terme sunna, dans la langue arabe, c'est at-tariqa. Une sunna, c'est at-tariqa, c'est une méthode. C'est une voie. Une méthodologie. Ça y est? Donc tu peux utiliser ce terme-là en l'annexant à autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala se l'est même affilié à lui-même, sunnatullah. Sunnatullah, la sunna d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc là, il a le sens de la méthode d'Allah, la voie d'Allah, la façon de faire d'Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, mais bien sûr, dans le jargon technique, lorsqu'on entend le terme sunna qui est utilisé par les ulama, eh bien cela désignera ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui comme parole, comme acte et comme approbation. D'accord? Donc les paroles qu'il a prononcées, les actes qu'il a accomplis, qui nous ont été rapportés par les sahaba, d'ailleurs, mais également les approbations, c'est-à-dire les choses qui ont été faites par les sahaba et qu'il n'a pas désapprouvé. Donc à ce moment-là, on dira que cet acte-là est une sunna. L'acte qu'a fait le compagnon et qui n'a pas été désapprouvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira que c'est une sunna. D'accord? Non. Que le prophète l'ait vu de ses yeux ou pas. Ce n'est pas une condition. À la selon l'avis prépondérant, que le prophète l'ait vu. Car les savants ils disent que même s'il n'a pas vu l'acte qu'a fait le compagnon, si cet acte-là n'était pas légiféré ou était contraire à la charia, Allah Jalla wa Ala lui en aurait informé. Donc le fait que le sahabi a fait tel et tel acte et que le compagnon ne l'ait pas désapprouvé, cela veut dire que elle est conforme à la sunna, que c'est une sunna. D'accord? Et certains ulama ont rajouté également les descriptions du prophète au niveau du comportement ou physique. Donc les descriptions du prophète au niveau de son comportement rentrent aussi dans le terme sunna, ou sa description physique, yani le fait qu'il était de taille moyenne, de telle couleur, etc., etc., rentre également dans le terme sunna. D'accord? Non. Bien. يقول ثم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه جل وعلا كذلك ما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا لأن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هناك أسماء سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا لم تكن موجودة في القرآن مثلا اسم الشافي اسم الشافي قال النبي صلى الله عليه وسلم واشفي أنت الشافي ولا شفاء إلا شفاءك فهذا الاسم هل هو موجود في القرآن؟ لا. إذن هل نقول أن الشافي ليس اسما لله تبارك وتعالى؟ لا. الشافي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لأنه موجود في السنة. وكذلك اسم الرب بدون إضافة، هل اسم الرب موجود في القرآن؟ يعني بدون إضافة الرب؟ لا، ليس موجودا في الكتاب، إنما هو موجود مضافا، مثلا رب العالمين، نعم، أو رب السماوات والأرض، نعم، أو رب العرش العظيم، لكن الرب بدون إضافة لا، وإنما هو موجود في السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك مثلا مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال كذلك أما الركوع فعظموا فيه أرب. طيب، فهل نقول الرب ليس اسما من أسماء الله؟ لا، بلى، نقول الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. طيب، وهكذا. Donc comme le prophète صلى الله عليه وسلم a décrit Allah تبارك وتعالى par des attributs, certains attributs, il a également rapporter certains noms d'Allah. D'accord? Des noms qui ne se trouvent pas dans le Coran. Comme par exemple son nom Al-Shafi. Donc parmi les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala, celui qui guérit Al-Shafi. Et ce nom-là n'est pas présent dans le Coran. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas un nom d'Allah? Parce qu'il n'est pas dans le Coran? Non. On dit c'est un nom d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné dans sa parole notamment, et guérit, car c'est toi le guérisseur. il n'y a pas de guérison si ce n'est ta guérison. Vous voyez? On a aussi un Rabb, le Seigneur. Dans le Coran, on a la mention du Seigneur, mais annexée à quelque chose d'autre, comme le Seigneur de l'univers, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du trône immense. Mais on n'a pas dans le Coran la mention du Seigneur Ar-Rabb, sans annexion. On le trouve seulement dans la Sunna. Est-ce qu'on va dire que Ar-Rabb, ce n'est pas un nom d'Allah? Non, c'est un nom d'Allah, sans aucun doute. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la prière, quant à l'inclinaison, à recours, glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur. En disant, Subhana Rabbi al-Azim. D'accord? Il a dit aussi, concernant le siwak, il a dit, c'est une purification pour la bouche et un moyen de satisfaire le Seigneur, Ar-Rabb. Donc Ar-Rabb, c'est un nom d'Allah. Car cela a été affirmé par la Sunna authentique. D'ailleurs, ثم يقول الشيخ مكانة السنة ما هي مكانة السنة فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه ومقاصده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل إليه قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والسنة أيضا تبين القرآن أي توضح مجمله كالصلاة والصوم والحج والزكاة الصلاة مثلا ذكرها الله تبارك وتعالى مجملا في القرآن لم يذكر عدد الركعات لم يذكر أسماء الصلوات صلاة الفجر طيب صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب والعشاء ذكرها مجملا فالسنة قد بينت الصلاة والصوم والحج والزكاة مفصلة وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن تبينها السنة النبوية والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن فتكون موافقة للقرآن فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. Donc la place de la sunna dans le domaine qu'on est en train d'étudier, c'est quoi sa place? Il dit la sunna, elle est là pour expliquer le Coran, pour clarifier ou pour exposer le sens des versets d'Allah tabarak wa ta'ala, des objectifs et des intentions d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour clarifier, pour exposer la chose qui a été descendue sur lui, qui est le Coran. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a dit dans le sens rapproché, et nous avons descendu sur toi le rappel, c'est-à-dire el Coran, afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été descendu. Donc la sunna également, elle est venue pour clarifier, détailler le Coran, pour détailler ce que le Coran a mentionné de manière générale, comme la prière ou le pèlerinage ou la zakat, ou le jeûne. Donc la prière, Allah tabarak wa ta'ala n'a pas mentionné le nombre de raka'at de telle ou telle prière. Il n'a pas mentionné les heures de manière précise des prières. Donc toutes ces choses-là, ces détails-là, on les trouve seulement dans la sunna. D'accord? Et la majorité des jugements et la majorité des règles qui ont été citées dans le Coran de manière générale, eh bien, elles ont été détaillées par la sunna prophétique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le Coran et la sunna sont indissociables. D'accord? Donc la sunna également, bien sûr, elle indique ce que le Coran indique et elle exprime ce que le Coran exprime. D'ailleurs, avec les mots, yani, avec d'autres mots, mais il exprime ce que le Coran exprime. Et bien sûr, elle est en conformité avec le Coran dans tous les domaines. Donc là, on parle du domaine des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais dans tous les domaines, que ce soit les choses qu'on dit ilmiya ou les choses qu'on dit amaliya, concernant la croyance, concernant la foi, mais aussi concernant les actes d'adoration. D'accord? Thumma yaqul وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. قال المؤلف وجب الإيمان بها والأدلة كثيرة، النصوص في هذا كثيرة معلومة. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن كما أنه يجب الإيمان بالقرآن، يجب الإيمان بالسنة الصحيحة. وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء، وقال في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالنصوص في هذا كثيرة جدا. Donc comme il est obligatoire, dit le Cheikh, de croire au Coran, il est aussi obligatoire de croire à la Sunna authentique. Et les preuves sont très nombreuses. Ils vont citer d'autres, les Cheikh, inshallah ta'ala. Et parmi elles, مثلا, dans la Surah An-Nisa, Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché, ô vous qui avez cru, croyez en Allah et à son messager. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et à son messager. C'est-à-dire, raffermissez, confirmez, complétez votre croyance et votre foi en Allah et en son messager. Hein, par l'ikhlas, par la véracité. À chaque fois qu'on t'amène une preuve claire, tu dois accepter. Vous voyez? C'est ça qu'Allah te demande. Parce qu'on pourrait se demander, mais comment Allah s'adresse aux croyants et il leur dit de croire. Mais c'est des croyants déjà. Ô vous qui avez cru, croyez. Hein? Non, ça veut dire ô vous qui avez cru, croyez en tout ce qu'on vous amène. S'il y a une chose que vous ignoriez auparavant, dès qu'on vous amène la preuve de telle ou telle chose, vous devez y croire. Vous devez y croire. D'accord? Croyez d'une foi ferme, d'une foi complète. Et également, il dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Au messager. Donc ici, l'obéissance, elle est absolue. Elle est absolue. C'est pas comme l'obéissance au gouverneur. L'obéissance au gouverneur, elle n'est pas absolue. Mais l'obéissance au prophète et au messager, elle est absolue. Car Allah il a répété wa ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasoula. D'accord? Il y a plein de preuves encore, notamment lorsqu'il dit Allah tabarak wa ta'ala, et le jour où il va les appeler, c'est-à-dire les kuffar, le jour où Allah il va les appeler et qu'il va dire qu'est-ce que vous avez répondu au messager, hein? Est-ce que vous avez accepté le message des messagers? Est-ce que vous avez suivi les messagers? Est-ce que vous avez obéi aux messagers? Donc là, ils ne pourront pas répondre. Donc ils seront déstabilisés ce jour-là. Ils n'auront pas de réponse à donner, aucune réponse à donner. Fahum la yatasaalun. Ils ne pourront pas s'interroger les uns les autres pour savoir quelle réponse donner. Non. Fahim, mais Allah leur dira qu'est-ce que vous avez répondu au messager. Donc c'est la preuve qu'il est obligatoire de suivre et d'obéir, hein, à tous les messagers alayhim salat wa salam. ثم يقول وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بهذا أو بها كذلك أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والكتاب ما هو القرآن والحكمة هي السنة الحكمة هي السنة فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Non. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc le début de sa phrase ici, on dit c'est dans la grammaire arabe, c'est un mubtada. Donc le mubtada, il commence à wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu 'azza wa jalla min al-ahadith as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Tout ça là, c'est mubtada. D'accord? Et le khabar il est où? Et bien le khabar il est où? Et bien c'est wajaba al-iman biha kadhalik. Ça, c'est le khabar. Taïeb.
Donc là, je ne traduis pas parce que on rentre dans la grammaire.
Puis il dit, donc comme il est obligatoire de croire en tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit afin de se décrire lui-même dans le Coran, eh bien il sera obligatoire de croire en tout ce que le prophète a dit pour décrire Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit les noms ou les attributs. Car il a dit à Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché à propos de son messager, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il prononce, ce n'est qu'une inspiration, ce n'est que révélation. Surtout concernant la croyance. Surtout concernant les choses de l'invisible. Taïeb, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc la sunna, c'est une révélation venant d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme il dit Allah, dans le sens rapproché, et Allah a descendu sur toi le livre et la sagesse. Donc Allah, il a descendu deux choses sur son prophète. Il a descendu le livre et la sagesse. C'est quoi le livre? Le Coran. Et c'est quoi la sagesse? Sunna. Si c'est pas la sunna, c'est quoi? Hein? C'est la sunna. Donc il est obligatoire d'avoir foi en tout ce que la sunna a apporté, notamment et surtout au niveau de la croyance. Au niveau de la croyance. Il dit Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, et tout ce qu'il vous a amené, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le, acceptez-le. Et tout ce qu'il vous a interdit, délaissez-le.
نعم
واعلموا أن أهل الأهواء والبدع يعني في هذا الباب إنما لم يقبلوا الأحاديث المخالفة لأهوائهم. طيب، فموقفهم في هذا الباب على أمرين: إما التكذيب، إما التحريف. هؤلاء أهل الأهواء والبدع، إما التحريف إما التكذيب. فإن كان يمكنهم تكذيبه كذبوا، وإن كان يمكنهم أو إن كان لا يمكنهم تكذيبه ماذا؟ حرفوا، كما حرفوا النصوص من القرآن الكريم. طيب، أما أهل السنة والجماعة فهم قابلوا كلما جاء الصحة أو كلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور العملية والأمور العلمية. أي نعم. Donc les gens des innovations ou les gens des passions, c'est quoi leur position par rapport à ce chapitre-là? Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Les hadiths qui ne vont pas dans le sens de leur passion, eh bien, ils vont faire l'une de ces deux choses. Soit ils vont les démentir totalement. Ils vont dire que ce ne sont pas des hadiths authentiques. Ce n'est pas authentique, on les rejette. Ou soit ils vont les modifier ou les altérer. Ils vont modifier des mots, des paroles, d'accord ? Ou ils vont les interpréter à leur manière. Donc lorsqu'ils peuvent les démentir, ils vont les démentir. Lorsqu'ils peuvent les démentir, ils vont les démentir. Et s'ils ne peuvent pas les démentir ou les discréditer, ils vont les modifier. Comme ils ont modifié des versets du Coran. Comme on l'a vu par rapport à la parole « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié la harakat ou une harakat. Et ils ont dit « وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا » Car ils ne peuvent pas démentir le Coran. Ils ne peuvent pas dire le verset n'est pas authentique. C'est impossible. D'ailleurs, alors que le hadith, ils peuvent jouer sur l'ambiguïté. Non, le hadith, il est faible. Ou on n'accepte pas la narration de tel ou tel rapporteur. Mais le Coran, ils ne peuvent pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont modifier des mots, des harakat. Ils vont modifier, ils vont faire une interprétation erronée, comme pour istawa. Ils vont dire istawla. D'accord? Et etc. parmi leurs égarements. Alors que les gens de la sunna, ils acceptent tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, tant que la chose elle est authentique, tant que le hadith il est authentique, que ce soit encore une fois concernant les actes d'adoration, les choses de la croyance, les qiyam et dalil ou les wujoubi. Premièrement parce que la preuve elle est là, et la preuve tu dois l'accepter, et deuxièmement parce qu'il est obligatoire d'accepter donc ces preuves là. D'accord? Non. ثم يقول الشيخ لكن لابد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله من الأحاديث الصحاح. والصحاح جمع صحيح. الصحاح جمع صحيح. والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل التام الضبط عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة فهو ما اجتمع فيه خمسة شروط. وفي هذا التعريف نزيد إن شاء الله شيئا مهما هو اتصال السند. اتصال السند هو شرط من شروط صحة الحديث. طيب، وربما نسي الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التعريف. إذا التعريف الكامل هو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده وما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا هو التعريف التام. إذن الشروط الخمسة هي: أولا عدالة الرواة، عدالة الرواة. الثاني ضبطهم. الثالث اتصال السند. الرابع سلامته من العلة. العلة ماذا؟ القادحة. ليس كل العلة، العلة القادحة. والخامس سلامته من الشذوذ. نعم. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, parmi les hadiths, as-sihah. Donc as-sihah, c'est le pluriel de sahih. D'accord? On dit un hadith sahih, on dit des ahadiths sihah, authentiques. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'en arabe, il y a des règles particulières concernant le pluriel et le singulier, comme pour le français. Mais c'est encore plus compliqué en arabe. Parce qu'en français, à partir de deux, ça y est, c'est du pluriel. Ça là. À partir de deux, tu mets un S à la fin des mots, ou un X, ça y est. Voilà, c'est fini. De deux jusqu'à un milliard. Alors qu'en arabe, non. En arabe, tu as un, après tu as deux. Après tu as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après tu as 11, 12, 13, etc. C'est encore autre chose. Après, à partir de 11, c'est encore autre chose. Vous voyez? Par exemple, pour dire 6 hadiths. Après il y a le féminin singulier aussi. Il y a le féminin singulier. Naïm. Pour dire 6 hadiths, qu'est-ce qu'on dit en arabe? Comment on dit 6 hadiths? Hein? Naïm. Sittatou. Ahadith. On ne dit pas sittatu hadith ou sittu hadith. Non, on dit sittatu. Pourquoi? Parce que hadith, il est au masculin. Donc quand le mot est au masculin, le nombre, on doit le mettre au féminin. C'est l'inverse. Hein, ouais. Vous savez ça? Kitab. Kitab, c'est masculin. Pour dire 10 livres. Comment on dit 10 livres? Ouais. 10 livres. عشرات كتب نعم ما شاء الله tu connais la règle alors نعم عشرات parce que كتاب c'est masculin donc tu peux عشرو on dit عشرات ou عشرات et on dit كتب parce que 10 on va utiliser le pluriel. Par contre une chose qui est féminin comme سياره une voiture Bilal comment on dit 9 voitures Mohamed 9 voitures hein Hassan تسعو سيارات parce que سيارة c'est féminin donc le nom on va le dire au masculin mais à partir de 11 c'est pas ça à partir de 11 c'est encore plus compliqué on a 11-12 après on a 13-14 en grande chose on a 11-12 d'abord ok on ne ramène pas dans ça, on ne ramène pas dans ça. El-Mouhim. Par exemple, ici, pour dire 15 hadith, on ne va pas dire hadith, on va dire hadith. On va dire Khamsata Ashara hadith. Sahou lala. Hein? Hadithan. Khamsata Ashara hadithan. Donc, 5 féminin, mais 10 masculin. Eh oui. Et Mohim, une fois que tu le sais, ça après ça. Bref. Donc, après la grammaire, on va rentrer dans la science du hadith maintenant. La science du hadith. Il dit, le chir, c'est quoi le hadith authentique? C'est vrai, qu'est-ce que c'est un hadith authentique? C'est un hadith qui est dans le Bukhari? Ou dans le Muslim? Ça veut dire que les hadiths dans les sunnahs, ils ne sont pas authentiques? Non. C'est peu que tu trouves un hadith qui n'est même pas dans les sunnahs, qui n'est même pas dans les sunnahs, ni dans les sunnahs, ni dans le Bukhari, ni dans le Muslim, mais qui est authentique. Vous voyez? Donc c'est quoi un hadith authentique? Est-ce que c'est un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, pas forcément. Ça peut être un hadith qui s'arrête à un compagnon ou qui s'arrête à un tabi'i, mais il est authentique. Donc un hadith sahih, dit le shaykh, c'est ce qui a été rapporté par un rapporteur intègre qui a ce qu'on appelle une maîtrise parfaite du hadith. Et on verra c'est quoi la maîtrise parfaite du hadith, qu'il a rapporté d'une personne qui est comme lui. D'accord? Donc chaque rapporteur de la chaîne doit être comme ça, intègre et maîtrisant le hadith, et sans qu'il n'y ait de chouzouf, de marginalité, entre guillemets, hein? De contradiction. Chouzouf, c'est une contradiction en fait avec les autres rapporteurs. D'accord? On va dire marginalité pour que vous compreniez mieux. Et des illa, pas d'anomalie. Pour pas qu'il n'y ait d'anomalie. D'accord? Taïe. Mais le cheikh, peut-être, il a oublié de mentionner, il faut également que la chaîne soit ininterrompue. On appelle ça ittisal sanad. Une chaîne ininterrompue. Donc si vous voulez noter la définition complète, c'est ça. C'est ce qui est ou ce dont la chaîne est ininterrompue et qui a été rapporté par un rapporteur intègre maîtrisant le hadith de quelqu'un comme lui, sans qu'il n'y ait de marginalité ni d'anomalie. Donc une chaîne ininterrompue, c'est quoi? C'est une chaîne dans laquelle il n'y a pas de trou. D'accord? Parce qu'en vérité, une chaîne de hadith, c'est simple en vérité. Hein? D'accord? Bilal a rapporté de l'islam, qu'il a rapporté de Muhammad, qu'il a rapporté de Rayyan, qu'il a rapporté de Na'im, qui a dit ceci et cela. Hein? Qui a dit ceci et cela. Qui a dit que le soleil se lève à 4h32 du matin. Ça, c'est une chaîne de transmission. Bilal, il a entendu cette parole-là de la bouche d'Islam. Et la bouche, l'Islam l'a entendu de la bouche de Muhammad. Qui l'a entendu de la bouche de Rayyan, qui lui l'a entendu de la bouche de Na'im, donc c'est lui qui a rapporté cette information-là. Donc là, on a une chaîne ininterrompue. Si tu poses la question à la personne, elle te dira, oui, c'est vrai, c'est Mohamed qui me l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est Ryan qui me l'a dit. Mais si on a un trou, c'est-à-dire que Mohamed, plutôt Bilal, rapporte quelque chose de Mohamed, mais qui n'a pas entendu de sa bouche à lui. D'accord? Tu l'as entendu en fait d'une autre personne. Entre toi et lui, il y a une autre personne. Mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. C'est qui cette personne-là? D'où tu l'as entendu? Et Bilal te dit, je ne sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié. Voyez? Ou je ne le connais pas. Voyez? Dans ce cas-là, on dit que la chaîne, elle est ininterrompue. Elle est coupée. Elle est interrompue. Donc tous les hadiths ou les ahadiths dont la chaîne elle est interrompue, où il manque des rapporteurs de hadiths, le hadith il n'est pas accepté. D'accord ? Donc, première condition, il y a cinq conditions. Il y a cinq conditions pour que le hadith soit accepté. Première condition, adalatul ruwat. Il faut que tous les rapporteurs soient intègres. Soient intègres. Ça veut dire quoi, intègre? Dans deux choses. Au niveau religieux et au niveau de al-muru'a, des bonnes mœurs. Au niveau religieux, il faut que les rapporteurs soient connus comme étant des gens, bien sûr, qui font les obligations d'Allah et qui délaissent les interdictions. Ça, c'est une condition adéquate, obligatoire. Et il faut que la personne également ne tombe pas dans des choses qui vont le rendre fasiq, pervers ou désobéissant, comme le fait de commettre des péchés majeurs, des kaba'ir. Donc forcément, un voleur, quelqu'un qui commet l'adultère, ou quelqu'un qui commet un kabira parmi les kaba'ir, son hadith à lui, il n'est pas recevable. Il n'est pas recevable. Mais pas seulement au niveau de la religion, également au niveau des bonnes mœurs. C'est-à-dire, s'il y a des actes qui ne sont pas à la base interdits par Allah, ni par Allah, ni par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des actes qui vont salir l'image de la personne. Qui vont salir l'image de la personne. Et cela va dépendre donc de l'endroit où tu vis et de l'époque à laquelle tu vis. Par exemple, il se peut qu'à certaines époques, il était très mal vu de manger dans la rue. De manger ou de boire dans la rue, par exemple. Comme on fait tous aujourd'hui. On mange à Nice sur les trottoirs, dans la rue, de manière normale. C'est pas une chose qui est mal vue aujourd'hui. C'est rentré dans les mœurs. Mais à une certaine époque, c'était mal vu de faire cela. C'est mal vu, aïb, comme on dit. Donc celui qui fait cette chose-là, eh bien, il aura sali son image. Et celui qui salit son image, son témoignage n'est pas accepté. Et son hadith n'est pas recevable. Celui qui sort dehors, la tête découverte. Dans certains pays, c'est mal vu. C'est une chose qui va salir un peu la réputation de la personne. D'ailleurs, aujourd'hui, se peut par exemple celui qui se fait la crête, celui qui se fait la crête là comme ça. C'est bien vu ou là c'est mal vu au niveau moro'a? C'est mal vu. C'est mal vu parce que il va ressembler au foussard, au pervers, au chanteur, au voyou, aux gens de victimes de la mode, etc. C'est mal vu. Donc celui qui a une crête, ce hadith, il n'est pas accepté. Comme à l'époque, celui qui avait la tête découverte, ce hadith, il n'est pas accepté. Voyez? Donc c'est ça, celui qui intègre. Al-adala. Tous les rapporteurs, ils doivent être intègres. Prends pas le hadith n'importe qui. Prends pas le hadith n'importe qui. Il a été rapporté que l'imam al-Bukhari, si la qissa est authentique, qu'il a refusé de prendre le hadith d'une personne car elle avait menti à un animal. Car elle avait menti à un animal. Subhanallah. Deuxième condition, adopt, la maîtrise du hadith. Donc adopt, elle va se faire de deux manières. De l'une de ces deux manières. Soit la mémorisation. D'accord? Une mémorisation parfaite. C'est-à-dire qu'il va transmettre ce qu'il a entendu de la personne de qui il a pris les hadiths de manière parfaite. C'est un peu exagéré, parce que la perfection, ça n'existe pas. Mais excellente. Excellente. C'est-à-dire qu'il arrivera à sortir le hadith qu'il a mémorisé à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. sans même réfléchir ou sans sortir des notes ou des livres. D'accord ? À n'importe quel moment, tu vas lui dire qu'est-ce que tu nous rapportes de ton cheikh ? Eh bien, il va nous rapporter les hadiths de manière excellente, directement. Ou alors, au niveau de l'écriture. Donc, celui qui n'a pas mémorisé les hadiths, mais qui les a écrits de son cheikh, il les a tous écrits, il les a fait vérifier à son cheikh, yani certifié authentique, lui aussi, on dit qu'il est tam al-dabt. On dit qu'il a atteint la maîtrise du hadith. Mais lui, comme pour le premier d'ailleurs en vérité, eh bien forcément avec le temps, il se peut que son état change. Comme celui qui a mémorisé, lorsqu'il sera âgé et vieux, il se peut qu'il va oublier. Donc là, il se peut qu'il passe d'un état à la base qui était quelqu'un qui excellait dans la maîtrise, à une personne qui n'excelle pas. Pourquoi ? Parce qu'il a vieilli et donc sa mémorisation a diminué. Ou celui qui avait rédigé des livres, mais qui les a perdus. Ou dont les livres ont été brûlés, comme cela s'est produit pour certains rapporteurs. Dans ce cas-là, lui, il va perdre son statut de rapporteur fiable. C'est bon, les frères ? Non. Troisième condition, ittisal al-sanad. On l'a vu. Il faut que la chaîne soit ininterrompue. Quatrième condition, salamatu min al-illa. Il faut que le hadith soit exempt d'anomalie. Il faut qu'il n'y ait pas d'anomalie. D'anomalie. On ne rentre pas dans les détails. Dans le texte ou dans la chaîne de transmission. Vous voyez ? Mais ça, bien sûr, il n'y a que les savants du hadith qui maîtrisent cette science-là qui vont le voir. Parce que l'illa, à la base, c'est une chose qui n'est pas visible, qui n'est pas apparente. Pour ça, on dit c'est une illa. En apparence, le hadith, il est correct, il est authentique. Mais lorsque le savant du hadith, il va étudier le texte ou la chaîne en détail, il va observer, il va remarquer qu'il y a une anomalie. D'accord ? Cette anomalie-là, là, elle va faire que le hadith, il est faible. Et cinquième condition, al-shuzuz, qui est la marginalité. Donc la marginalité, c'est quoi ? C'est un hadith qui a été rapporté par un rapporteur qui est fiable, mashallah. Mais la version qu'il a rapportée, elle contredit la version qui a été rapportée par d'autres rapporteurs. Comment on fait dans ce cas-là? Ils sont tous des rapporteurs fiables. Mais celui-là a rapporté une version du hadith qui contredit les autres hadiths. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a marginalité. Et comment on va faire pour pencher vers l'un ou vers les autres, eh bien on va regarder par exemple le nombre de rapporteurs. S'il y a 15 rapporteurs qui rapportent un hadith et tu en trouves un seul qui rapporte un hadith contredisant leur hadith, lequel on va prendre? Celui des 15. Forcément. Ça veut dire que celui qui a rapporté le hadith qui les a contredits, Il s'est trompé. On dit qu'il y a une marginalité. D'accord ? Ou alors on va regarder le niveau de fiabilité. Il se peut qu'ils soient tous fiables, mais que certains soient plus fiables que d'autres. Dans ce cas-là, on va opter pour les hadiths de ceux qui sont plus fiables et plus connus pour leur mémorisation ou leur intégrité et autres. Al-Muhim. Là, on n'est pas en train d'étudier la science du hadith, donc on ne va pas non plus trop détailler. وقوله تلقاها أهل المعرفة. أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في سنة من صفات الله عز وجل فقال ماذا؟ نعم ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. طيب. Puis sa parole, rahimahullah ta'ala, les hadiths authentiques qui ont été reçus et acceptés par les gens de al-ma'rifa, les gens de science, comme étant des hadiths acceptables. Naam. Réveille-le, réveille-le. Ça, il fait l'odo, c'est bientôt l'heure. Donc, bien sûr, cela concerne les gens de science. Les gens de science qui sont experts dans le domaine du hadith. C'est eux qui vont donc étudier le hadith, la chaîne du hadith, et qui vont dire si le hadith il est authentique ou pas. D'accord ? C'est pas n'importe qui. C'est pas parce que le frère il a étudié Al-Bayquniya hein, qu'il a le droit par la suite d'étudier la chaîne du hadith et de dire que le hadith il est faible ou il est authentique. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Et donc le cheikh rahimahullah ta'ala ici va commencer à mentionner donc certains hadiths prouvant certains noms d'Allah et certains attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïm. وفي قوله في قوله رحمه الله تعالى وجب الإيمان بها كذلك يعني كما أنه يجب الإيمان بما في القرآن الكريم فيجب الإيمان بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا يعني من غير التحريف ومن غير التعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc à la fin, lorsqu'il dit Rahimahullah, il est obligatoire également d'y croire, c'est-à-dire de croire à la sunna authentique, c'est-à-dire comme il est obligatoire de croire au verset concernant les noms et attributs d'Allah, il est obligatoire de croire au hadith concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire sans faire de tahrif, sans modifier les paroles du prophète, sans renier les paroles du prophète, sans faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures, et sans non plus donner un comment qui est connu des noms d'Allah ou des attributs d'Allah Jalla Jalala. Non. Est-ce que c'est clair les frères? Ouais. N'hésitez pas les frères à m'arrêter, bi'idhnillah azza wa jal. S'il y a quelque chose que vous aurez mal compris ou dans laquelle vous avez un doute ou une ambiguïté, inshallah. Fadal.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Donc je disais, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à bi'idhnillah azza wa jalla, bien sûr, concernant le cours.
Je disais, il y a un hadith qui ont abrogé le verset du Coran.
Je n'en ai pas comme exemple ici. J'ai pas d'exemple ici. J'ai pas d'exemple. Quand on dit abroger, c'est-à-dire abroger le certains jugements. Certains jugements qu'il y a dans le Coran. Hein? Il se peut qu'il y ait des choses qui aient été légiférées par Allah dans le Coran, mais que la sunna, après, est venue abroger. On n'a pas la chair, elle aurait été aimée.
Le fait de verser une aumône avant de
comment?
Le fait de verser une aumône avant de demander une aumône.
Le fait de verser une aumône avant de
faire une aumône pour pourquoi?
De poser une question.
C'est verset là.
Mais dans. Pour revenir au tafsir, est-ce que c'est une obligation? Pas une obligation, il faut revenir au tafsir. Tu as lu le tafsir de ce verset?
Il est. Il ne pense jamais que Ali ibn Abi Talib.
Allahu a'lam si cela. Si cette règle-là, on peut l'appliquer à ce verset, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, yani, le Cheikh Al-Thaymi a dit que se peut qu'il y ait dans la Sunna des choses qui abrogent le Coran, des jugements qui n'ont pas. Ouais. Même si ici, je n'ai pas d'exemple. Même le Cheikh, quand il avait dit ça, je me rappelle, il n'avait pas d'exemple non plus. Il n'avait pas d'exemple. Mais il a dit c'est possible. Ta'ala. Non, mais je dis ça parce que. Je vois qu'il y a moins de monde déjà qu'au début. Donc j'ai peur que les frères ne viennent plus parce qu'ils sont peut-être dépassés, entre guillemets, ou peut-être largués par ce domaine-là. Peut-être qu'il n'est pas. Hein? Ou peut-être parce qu'ils sont en vacances, ou au bled aussi. C'est possible. Mais voilà, moi j'ai. L'objectif c'est que tout le monde profite, bi'idhnillah. Tout le monde profite. De toute façon, yani, c'est vrai que c'est le premier livre que j'ai choisi ici, dans cette mosquée-là en tout cas. Parce que certains frères voulaient justement étudier ce domaine-là. Et parce qu'on avait déjà vu, pas ici, mais dans d'autres mosquées plusieurs fois. Les trois fondements, les quatre règles, la marque de l'islam et tout, donc on voulait un peu changer. Mais il faut savoir, mes frères, que Asma Allah wa Sifat, les noms d'Allah et les attributs d'Allah, c'est du tawhid. C'est du tawhid. Vous savez que le tawhid est de trois catégories. Tawhid al-Rububiya, al-Uluhiya ou Asma wa Sifat. Donc on ne peut pas délaisser ce domaine-là. C'est la base. Si tu veux être un mouwahid, un vrai monothéiste, tu es obligé d'étudier ce domaine. Il ne faut pas rester cantonné au tawhid de l'adoration, que tu peux trouver bien sûr dans les trois fondements ou les quatre règles ou kitab tawhid, il n'y a pas de doute. Mais tawhid au niveau de l'asma wa sifat, si tu veux vraiment l'étudier de manière correcte, tu seras obligé d'étudier Al-Wasitiyya. Et encore, Al-Wasitiyya, ce n'est pas un livre long en vérité. Il est court ce livre. Il est court. Comparé à d'autres livres comme Tahawiyya ou d'autres. D'accord? Ce n'est pas le livre le plus compliqué. Au contraire, c'est l'un des livres les plus faciles dans ce domaine. D'ailleurs, Al-Muhim, on verra de toute façon à la fin. On fera un examen. J'espère que vous y participerez tous. On verra, Inch'Allah, si c'est assimilé ou pas. Si on voit que c'est assimilé, on pourra rester un peu dans ces kutub qui sont un peu techniques. Dans le cas contraire, on reviendra aux livres plus simples tels que Durus al-Muhimma ou d'autres, on verra, Inch'Allah. D'accord ? Est-ce que c'est bon les frères? Alhamdulillah. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يجعلنا من الذين يؤمنون بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه جل وعلا بسنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.